Le point.
Les Contrariantes, un podcast bimensuel dédié à l'échange d'idées présenté par le magazine Le Point avec
Peggy Sastre
et Laetitia Strauch-Bonnard. Cet épisode est consacré aux ratés et aux retards de la campagne de vaccination européenne et française, puis, dans une seconde partie, au documentaire Chambre 2806 sur les affaires DSK. Bienvenue chez Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté. Une émission où toutes les deux semaines, Peggy Sastre et moi-même commentons l'actualité puis débattons avec un invité. Bonjour Peggy.
Bonjour Laetitia.
Alors notre sujet du jour, le fiasco des vaccins contre le Covid-19. Nous le savons, à l'heure actuelle, l'Union européenne a vacciné une proportion bien plus faible de sa population que les États-Unis, le Royaume-Uni ou encore Israël contre le Covid-19. En cause, entre autres, le manque de vaccins. En effet, certains industriels comme AstraZeneca ou Pfizer-BioNTech ont dû repousser la livraison de certaines commandes européennes à cause de problèmes de capacité et de production. Au sein de l'Union européenne, la France, par ailleurs, fait partie des pays dont la campagne de vaccination a commencé le plus lentement, même si aujourd'hui, elle tente péniblement de rattraper son retard. Alors pour ma part, dans cette présentation, je vais me concentrer sur le volet européen du problème. Dans un entretien récent, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a reconnu être consciente que seul un pays peut être un hors-bord quand l'Union européenne ressemble plus à un tanker. Elle a aussi reconnu des erreurs et la lenteur des négociations menées par l'Union devant le Parlement européen le 10 février dernier. Pour autant, elle continue de défendre sa stratégie au nom de la solidarité entre pays européens. En réalité, il est évident que la responsabilité de la Commission européenne dans ces dysfonctionnements est entière. Il a fallu des mois à la Commission pour signer des contrats avec les fabricants, quand le Royaume-Uni n'a eu besoin que de quelques semaines. Comme le rappelle le Süddeutsche Zeitung, dans un article excellent qui date de début février, la stratégie de vaccination du Royaume-Uni a commencé fin avril 2020. À ce jour, ce pays a négocié avec 7 industriels, s'assurant la livraison de 407 millions de doses pour ses 66,7 millions d'habitants, soit 6 doses par personne, puisque les autorités escomptent que les Britanniques devront être vaccinés chaque année. Et en plus, c'est quoi qu'il en coûte, parce que le Royaume-Uni ne prête aucune attention au prix de cette politique. L'histoire européenne est tout à fait différente. 4 grands pays, la France, l'Allemagne, les Pays-Bas et l'Italie, ont constitué une alliance pour négocier avec les industriels au mois de mai. Mais début juin, il est décidé que la Commission se saisira du dossier par souci de solidarité avec les 27. La santé ne fait pas partie des compétences partagées de l'Union européenne, mais en l'occurrence, les États ont accepté de la lui déléguer. Cependant, le temps de prendre cette décision, quelques semaines étaient déjà perdues. Ensuite, dans les négociations, l'Union européenne a marqué sa préférence pour la sécurité sur la rapidité, puisqu'elle s'est assurée à chaque fois que les entreprises pharmaceutiques soient tenues entièrement responsables en cas de problèmes causés par les vaccins. Autre difficulté, avant de conclure un contrat avec une entreprise, les 27 États membres ont 5 jours pour donner ou non leur accord, ce qui ralentit encore la signature des contrats. Par ailleurs, les différences de prix entre vaccins et les réticences vis-à-vis du nouveau procédé qu'est la technologie à ARN messager alourdissent la procédure. Et pour finir, il s'ajoute une préférence apparente, sinon avouée, pour les fabricants européens qui poussent la Commission à signer des contrats avec des entreprises dont le produit n'est pas encore abouti. En novembre 2020, l'Union européenne avait réussi à commander plus de 2,3 milliards de doses pour ses 450 millions d'habitants auprès de 6 industriels, auxquels s'ajoutent récemment 260 millions de doses. Pourtant, au 1er février, seuls 18,5 millions d'entre elles avaient été distribuées. En réalité, chaque jour qui passe, chaque retard pris dans la vaccination se traduit en morts qu'on aurait pu éviter, en situations économiques difficiles, voire gravissimes, qu'on aurait pu aussi empêcher. Donc, une stratégie aussi mauvaise, en tout cas au niveau européen, me semble impardonnable. C'est de cela dont je voulais parler avec toi, Peggy, aujourd'hui, et plus largement du rapport de nos pays et de l'opinion publique à la vaccination.
Ce début m'incite à te poser une question. Est-ce que tu sais ce que c'est un clusterfuck?
Alors, je pense savoir ce qu'est un cluster, mais un clusterfuck, là, non, je,
Donc, le clusterfuck, c'est une expression américaine qui est intraduisible et qui signifie une situation chaotique où tout semble aller de travers. Donc, on y trouve souvent un mélange d'incompétences, de mauvaise communication et aussi un trop-plein de gens affairés à une tâche. Donc, c'est là qu'on voit que le clusterfuck peut aussi se chevaucher à l'armée mexicaine. Il se dit que le terme aurait été créé par un poète américain, Ed Sanders, dans les années 60. Donc, c'était un scénario d'un film expérimental qui s'appelait Mongolian Clusterfuck et qui pourrait faire référence au viol collectif commis par les armées de Genghis Khan et, par extension, dans un contexte un peu plus sympathique, aux partous où on finit par ne plus savoir où on met le bout. Et c'est un terme qui est souvent utilisé dans un contexte militaire. Donc, par exemple, voilà, une des premières utilisations célèbres, c'est on a pu dire que la guerre du Vietnam était un clusterfuck, comme la guerre en Irak ou en Afghanistan. En français, on pourrait traduire ça de manière un peu moins fleurie par un casse-tête, non pas un casse-texte, un bourbier ou un merdier. Et le terme m'est revenu à l'esprit en préparant cette émission parce qu'il me semble que la question des vaccins en France, et comme tu l'as si bien détaillé dans l'Union européenne, relève d'un clusterfuck. Donc on ne sait pas par où commencer. Et moi, le fil que je tirerais pour ma part, c'est la défiance des Français face à la science, à la technique et même au réel d'une façon très générale et la manière dont ça s'est sédimenté depuis des années. Donc, je donnerai deux exemples. Il y a un sondage qui a été fait en 2018. On demandait à plusieurs gens dans le monde, est-ce que la pauvreté extrême, c'est moins $1,9 par jour. Est-ce que la pauvreté extrême, ces 20 dernières années, a quasiment doublé? Est-ce qu'elle est restée identique? Ou est-ce qu'elle a été divisée par deux? Donc la bonne réponse, voilà, c'est la 3. L'extrême pauvreté a été divisée par deux. Et on voit que la France est tout en bas des populations qui donnent la bonne réponse avec seulement 4% de la population. Il faut aussi noter que dans le monde, quand les gens répondent par hasard, c'est seulement 33%, mais en haut, il y a la Suède avec 25%, la Norvège avec 25%, voilà, et la France est tout en bas avec l'Espagne et la Hongrie à 4, 3 et 2%. Et le deuxième exemple qui est plus proche du sujet des vaccins, c'est une vaste étude qui a été menée en 2015 dans 67 pays au monde, sur un total de plus de 65 000 personnes. Et qui est à ce jour en fait la plus grande enquête sur la confiance dans la vaccination, et qui montre que à la fois la région européenne et la région où on a le moins confiance au vaccin, et que la France en fait est le pays au monde où on a le moins confiance dans les vaccins. Ces dernières années, on a beaucoup glosé sur la vérité alternative, sur les fake news. On a pointé les États-Unis de Trump, le Royaume-Uni avec le Brexit, etc. En gros, on est là, on regarde ces gens de haut, on dit ah bah quelle bande de débiles. Ils croient n'importe quoi et regardent, aux États-Unis, ils ont un chaman à cornes qui débarque au Capitole. Mais en fait, nous, en France, on est littéralement en fait, assis dans un pays où le fossé entre la réalité et les perceptions est peut-être le plus large dans le monde, et ça se matérialise aujourd'hui avec les vaccins.
Mais est-ce qu'on a des hypothèses sur les raisons de cette défiance ?
On est dans un pays qui est malade de sa technophobie, je dirais. On a le record de maladies, enfin de gens qui se disent malades à cause des ondes, du compteur Linky. En ce moment, voilà, les destructions d'antennes 5G, ça fait même plus l'information, parce que tellement c'est banal. Il y a toutes les peurs alimentaires, il y a des gens comme Marie-Monique Robin. Après, Marie-Monique Robin, je ne veux pas du tout en faire un cas personnel. C'est une journaliste qui a fait des documentaires et des livres sur l'alimentation, sur qu'il y a des pesticides, qu'il y a des OGM, etc. Et puis, en fait, elle tisse en fait, toute une toile. Elle sème vraiment les graines de la défiance face, très généralement, la technologie, les vaccins, les progrès, les agences sanitaires, parce que sans Noël, tout le monde est cul et chemise. Il y a des scientifiques qui ne vont pas dans son sens. Elle dit qu'ils sont vendus au lobby, etc.
Et bien sûr, ce genre de choses.
Donc, sans en faire un cas personnel, le fait est qu'elle est aussi un peu un clusterfuck à elle toute seule, vu qu'elle est assez représentative en fait, du problème que j'essaye de décrire. Et dans le cas précis des vaccins, en tout cas du vaccin Pfizer contre le Covid-19, qui est un vaccin à ARN qui a fait appel au génie génétique pour être développé, je pense qu'on est à fond dans cette, à la fois la rencontre de la défiance de la population face au vaccin qui est, comme je l'ai montré, très ancienne et très ancrée et qui est un record dans le monde. Voilà, et toutes les questions de génie génétique et de GM, etc., la France est aussi très, très bas. Enfin, un exemple très récent, c'est Emmanuel Charpentier qui a eu le prix Nobel pour CRISPR-Cas9 et qui, en fait, n'a pas pu faire ses recherches en France pour des questions de législation.
Mais ce que je trouve très intéressant dans ce que tu dis, c'est que finalement, tu vas chercher des causes sous-jacentes dans ce qu'on pourrait appeler les mentalités, hein, avec des guillemets, alors que c'est vrai que la plupart des analyses, y compris la mienne, hein, dans cette présentation, se concentrent sur des questions d'organisation, des questions institutionnelles, des questions de prise de décision. Tout va ensemble, hein. Mais je pense que dans le cas français, en tout cas, qui est celui que nous connaissons le mieux, il y a certainement cette défiance qui joue un rôle. Moi, ce qu'on remarque aussi, c'est que le pouvoir a essayé de prendre en compte cette défiance. Une des raisons du retard français à l'allumage, hein, pour la vaccination en janvier dernier, c'était qu'il ne fallait pas brusquer les Français. Il fallait, dans les maisons de retraite, obtenir le consentement des personnes âgées au préalable, donc ce qui impliquait une réunion supplémentaire à chaque fois, beaucoup de documents à signer. Et je ne sais pas si c'est la meilleure réponse, en fait, face à la méfiance, parce qu'en fait, ça donne l'impression de prendre au sérieux cette méfiance, non pas forcément de la respecter, mais de sous-entendre qu'elle est peut-être légitime. Et je pense que le pouvoir a fait une erreur, en fait, en essayant, comme on dit aujourd'hui, d'apaiser les gens. Il y a une deuxième chose qui me frappe, mais ça, c'est à nouveau plutôt le côté institutionnel, organisationnel, c'est qu'on a aujourd'hui un État qui est quand même très gros, hein, plus de la moitié du PIB aujourd'hui va dans les dépenses publiques, mais on a l'impression que plus l'État est gros, moins il est efficace. C'est Jean-François Revel qui avait trouvé une formule extraordinaire dans les années 1990. Il avait écrit un livre qui s'appelait « L'absolutisme inefficace ». Et j'ai l'impression que dans cette pandémie, on a vu les deux facettes de cet État un petit peu en même temps. C'est-à-dire qu'on a l'absolutisme qui nous dit « vous ne sortez plus de chez vous, vous vous comportez de telle manière, vous remplissez des attestations parce que l'État l'exige ». Et d'un autre côté, on a l'inefficacité, puisque quand il s'agit de dérouler une stratégie de vaccination digne de ce nom, il n'y a plus personne, ce qui est quand même assez agaçant et même assez scandaleux, hein, pour les citoyens. Et donc voilà, moi je trouve qu'on est arrivé aujourd'hui à une situation de l'État qui pose vraiment problème, parce qu'à cela, en plus, il faut ajouter un autre enjeu, qui est qu'on ne sait pas qui est responsable. Il est très difficile de pointer les responsabilités, on le voit d'ailleurs avec la Commission européenne. Ursula von der Leyen a quand même échoué dans sa stratégie de négociation, mais elle est toujours là. Et à mon avis, elle restera là parce que finalement, la responsabilité est un peu diluée. D'ailleurs, le Parlement européen n'a pas tout à fait les moyens de se débarrasser d'une commission défaillante. Il peut tout à fait voter une motion de censure, mais les conditions ne sont pas très faciles. Au niveau de la France, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que la France maintenant rejette la responsabilité sur l'Union européenne ou sur les fabricants. Donc à la fin, personne ne paie jamais rien.
En fait, le problème de ce genre de problème, c'est que les gens ne sont pas à portée de la base.
C'est ça.
Comme tu dis, il y a une dilution des responsabilités. On en revient, voilà, à l'armée mexicaine. On ne sait pas qui décide, on ne sait pas qui est responsable. Et justement, on ne sait pas qui on peut sanctionner en cas de manquement, en cas d'erreur, en cas de faute, en fait. C'est comme tu dis, on en arrive à une situation atroce, quoi. Tout est cumulé, c'est un tas sur le tas sur le tas. Et aussi un autre terme anglais, c'est aussi un terme militaire que j'aime beaucoup, c'est le catch-22. Et j'aime tout particulièrement parce que Christopher Hitchens avait joué sur la formule pour en tirer son autobiographie Hitch-22. Et le catch-22, en fait, c'est une situation qui est tellement complexe que lorsque tu penses tirer un fil pour résoudre un problème, en fait, tu crées un autre problème. Parce que le fil que tu as tiré, en fait, c'était la solution d'un autre problème que tu n'avais pas vu, etc. Et ça fait partie aussi de ces termes intraduisibles qui pourraient bien caractériser la situation dont on essaye de parler maintenant.
Tout à fait. Et par ailleurs, sur les questions de mentalité, moi, j'avais deux autres hypothèses, en fait, qui pourraient expliquer pourquoi on pédale dans la semoule. Alors, soit pour la France, soit pour l'Union européenne dans son ensemble. En fait, si on regarde les pays qui sont les champions à la vaccination, il y a notamment Israël et le Royaume-Uni. Et j'ai l'impression que le cas d'Israël est très révélateur dans la mesure où c'est un petit pays qui est dans une situation de danger constant et donc qui, à mon avis, a un sentiment d'urgence, un sens aussi des priorités très claires, très affirmées et qui sait très bien s'organiser. Je me demande si ça n'est pas un facteur sous-jacent aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui en Europe, on vit dans des pays qui ne connaissent plus ce sentiment d'urgence. Alors, bien sûr, on a été touché récemment par des attentats, mais c'est un petit peu différent, c'est pas la même chose que de sentir des menaces à nos portes. Et je me demande si ça n'est pas des raisons qui peuvent expliquer notre relative paresse, comme si on ne comprenait pas le sens du danger. Ce qui m'amène à une autre hypothèse, hein, qui est peut-être complémentaire, qui est que c'est aussi comme si cette épidémie n'était pas assez grave. Au sens où c'est une épidémie assez étrange, elle touche certaines personnes plus que d'autres, elle ne touche pas les enfants. Donc par rapport aux épidémies classiques de l'histoire, hein, qui touchaient les enfants, c'est la même chose. On n'a pas ce sens de la tragédie qui est aussi fort, elle touche les personnes âgées, et même si bien sûr personne ne souhaite que les vieux meurent, j'ai l'impression qu'il y a cette idée que c'est aussi le sens des choses que les plus âgés partent dans ces circonstances. Alors tout cela n'est pas dit, tout ça est très confus, je pense. Et c'est ça qui est vraiment terrible, parce que les gens, à mon avis, aussi en permanence, entre un grand sentiment d'urgence et de peur, surtout quand ils voient leurs proches être malades ou mourir, ou quand ils voient des formes vraiment très graves de cette maladie, parce qu'il y a des formes très graves de cette maladie, et la fois d'après, eh bien, ils peuvent se retrouver dans un environnement où personne n'est malade, où personne ne souffre vraiment. Voilà, et donc j'ai l'impression que la situation n'est pas assez grave pour qu'il y ait une sorte de sentiment collectif de la nécessité d'avancer et de se faire vacciner.
Je suis tout à fait d'accord, et ça aussi on le voyait dans la grande étude qui mesurait la confiance des populations par rapport aux vaccins. En fait, les meilleurs, ceux qui avaient le plus confiance dans les vaccins, c'était le Bangladesh, l'Équateur et l'Iran. À la fois des pays pauvres qui ont des problèmes d'épidémie saillantes, en fait, ils voient que les vaccins, ça marche et c'est utile et ça change la vie, etc. Et je suis vraiment d'accord avec ton analyse sur le fait que voilà, que cette épidémie en fait est paradoxalement pas assez dangereuse, pas assez violente. Comme tu dis, elle touche pas les enfants, il y a pas des mouroirs dans les rues, les cadavres ne s'empilent pas. Voilà, la grippe espagnole, le grand exemple récent qu'on donne souvent. C'est vrai que c'est un paradoxe, parce qu'en même temps, t'as l'impression que tout le monde est parano, tout le monde est hypochondriaque, je suis la première concernée, je n'ai plus à Paris, je fais très attention. Voilà, c'est cette impression là, très bizarre.
On ne jette la pierre à personne, hein. On constate ces paradoxes, et en effet, nous-mêmes, on peut les vivre ou les incarner. Moi, j'en remarque un autre, qui est que les personnes se plaignent de plus en plus, hein, des conditions du confinement, et en même temps, certains, et même beaucoup, restent méfiants à l'égard du vaccin. Alors ça, c'est quelque chose que je n'arrive pas à réconcilier, à moins que ce ne soient pas du tout les mêmes personnes. Donc ça, je ne pense pas que les études puissent être assez fine pour capter ça. Mais on a d'un côté un ras-le-bol assez fort quand même vis-à-vis de notre mode de vie depuis un an, et en même temps, des gens qui continuent d'exprimer leur scepticisme. Enfin, après, c'est ce qu'ils disent, hein. Peut-être qu'ils se feront vacciner dans tous les cas, mais comme toujours, une crise, une épidémie, c'est un révélateur de tout ce qui va mal, de tout ce qui coince, de tout ce qui est contradictoire. Et là, on voit très bien aussi ce que ça montre de la société française. Bien, je pense que c'est le moment de passer à notre contrariété du jour. Alors moi, j'ai une contrariété un peu humoristique aujourd'hui. D'ailleurs, elle m'a été soufflée par ma professeure d'histoire-géographie de première, qui se reconnaîtra sûrement si elle nous écoute, qui m'a signalé donc une chose tout à fait intéressante et ridicule, qui est la dernière campagne de PETA. Alors PETA, c'est une association qui défend les animaux, qui est connue pour son militantisme, une association américaine, mais qui est présente dans le monde entier, dont la nouvelle campagne consiste à inciter les gens à ne plus utiliser des noms d'animaux dans les insultes, ou même pas les insultes, dans les jugements négatifs. Par exemple, il ne faut plus dire poule mouillée, mais il faut dire que quelqu'un est lâche. Il ne faut plus dire que quelqu'un est un cochon, mais qu'il est répugnant. Il ne faut plus dire que quelqu'un est un rat. Alors, en anglais, en fait, rat, ça veut dire balance. Mais bon, en français, ce serait que quelqu'un est radin. Voilà, il ne faut plus dire que quelqu'un est un rat s'il est radin. Alors, pourquoi ça? Parce que en faisant ça, bien sûr, on dévalorise les animaux, et puis surtout, on est coupable de spécisme, c'est-à-dire qu'on institue une hiérarchie morale et juridique aussi entre les espèces, et on place l'espèce humaine tout en haut de cette hiérarchie. Donc, ça fait partie des grands combats de PETA. Alors, quand je dis que c'est une contrariété amusante, c'est qu'en fait, cette idée est tellement ridicule qu'elle a quand même suscité énormément de moqueries sur les réseaux sociaux je ne suis pas présente, mais où je suis quand même allée faire un tour et je me suis rendu compte que les gens avaient la tête froide et se rendaient compte que c'était ridicule. Donc, on peut aujourd'hui être un défenseur invétéré de la cause animale et ne pas souscrire à ces idées complètement farfelues. J'ajouterais aussi que, et là c'est peut-être un peu moins amusant, cette obsession pour la langue, pour le langage et pour l'idée qu'on peut changer le monde aussi en changeant les mots, c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui dans le militantisme prétendument progressiste, qu'on retrouve aussi dans les combats liés au genre. Et je suis frappée vraiment par ce que j'appellerais le littéralisme, en fait, de ces causes. C'est cette idée qu'aussi, il n'y a plus de sens figuré, donc il n'y a plus d'humour, puisque chaque mot, chaque terme doit être vraiment pris au sens le plus littéral qui soit. Et évidemment, là, vraiment, ça, c'est beaucoup moins amusant. Et à mon avis, suivre ce genre de préceptes, c'est un petit peu le début de l'ennui total.
Ou le totalitarisme.
Ou l'ennui totalitaire, oui.
Voilà.
Tout à fait. Contrôler le langage, bien sûr, c'est aussi contrôler l'esprit.
Tout à fait. Et toutes les grandes dictatures ont commencé par une modification du langage.
Voilà, donc on n'arrive pas à rester amusant. Il faut quand même terminer par une conclusion extrêmement sérieuse.
Par la mort. Bah, ma contrariété, c'est un peu du même style. Je suis tombée sur un article de Libération qui est paru le 10 février. C'est une interview qui a été menée par Émilie Lesteri. C'est une interview de Delphine Aslan qui a un projet qui s'appelle Œnologuin. Donc, c'est « On découvre le vin sans sexisme ni patrialisme ». Donc, le chapeau de l'article, c'est « Face au sexisme dans le milieu du vin ». Delphine Aslan propose depuis quelques années des ateliers d'œnologie à destination des femmes et des personnes queer. Dans des bars ou à domicile, la caviste de formation veut créer des moments de convivialité autour de cuvées à déguster sans complexe. Et il y a plusieurs passages de cette interview qui m'ont en fait très profondément contrariée, donc c'est bien pour la contrariété. Au début, elle dit « Ce sont des personnes qui apprécient particulièrement ici le fait d'être ensemble et de pouvoir poser toutes les questions qui leur passent par la tête. Il n'y a pas de jugement dans l'air ou de volonté d'avoir l'air plus malin que les autres. On rit et on apprend sans complexe. » Donc voilà, cette idée qu'entre femmes en général et entre les lesbiennes en particulier, il n'y aura pas de jugement, je sais pas, enfin...
Bon, pas entre nous, Peggy.
Voilà, pas entre nous, mais j'ai eu la malchance de croiser des femmes et des lesbiennes qui étaient particulièrement jugeantes. Non, mais plus sérieusement, voilà, je pense, et c'est pas juste une pensée, une opinion, c'est assez constaté que plus, en fait, un milieu est renfermé sur lui-même, plus il est toxique. Et là, pour tirer un peu sur mon expérience personnelle, j'ai fréquenté un peu le milieu lesbien parisien, et je peux témoigner qu'il est atroce, comme tous les milieux, voilà, très fermés. Il y a les mêmes, et bien, les mêmes logiques, entre guillemets, d'oppression qu'ailleurs, d'ostracisme des gens qui sont un peu différents, etc. Voilà, je me souviens très bien d'une amie qui venait de province, qui n'était pas spécialement intéressée par la mode, par les fringues, etc. Qu'elle était très habillée, voilà, très simplement, voilà, en jean, chemise à carreaux, casquette, etc. Et à l'époque, donc c'était au début des années 2000, la mode chez les lesbiennes, c'était, enfin, il y avait en tout cas une mode, une niche chez les lesbiennes, c'était femme, donc c'est des lesbiennes très féminines, très années 50, style pin-up, etc. Et elle s'était pris des réflexions comme quoi, ah bah tu fais pas attention, et puis quelle image tu donnes du lesbienne, des lesbiennes, etc. Donc bon, voilà, la blague, genre entre les lesbiennes, on se juge pas, lol. Le deuxième passage qui m'a contrarié dans l'interview, donc c'est à la fin, Émilie Lesteri, la journaliste, lui demande « Avez-vous déjà reçu des reproches concernant le choix de les mixités choisies ?» Et donc là, la Delphine Aslan répond « On m'a déjà demandé d'accepter exceptionnellement la présence d'un homme lors d'un atelier, en arguant notamment qu'il était très gentil. Je le conçois tout à fait, mais je tiens à respecter mon principe jusqu'au bout. » Et là, c'est le plat de résistance. Un homme, même très gentil, peut suffire à intimider. Sa seule présence peut enlever la spontanéité au groupe. Et là, voilà, encore une fois, c'est peut-être ma névrose. Voilà, je vois de la mort, de la dictature et partout. Mais là, on est vraiment dans une espèce de pensée du péché originel. Et imaginons, faisons la translation dans un autre contexte. Je suis du Cususlan, je fais une réunion interdite aux noirs. On me dit qu'un noir est très gentil, mais non, il suffit qu'un noir soit là et ça, on est mal. Et ça m'a fait penser, en fait, à un passage de James Baldwin, donc l'écrivain américain, dans La prochaine fois, le feu. Donc il parle en fait des portes de la paranoïa qui peuvent se refermer sur les Noirs. Et là, malheureusement, c'est mal traduit dans la version française, parce que la phrase, c'est « Qu'aux yeux des Noirs américains, les pêcheurs aient toujours été blancs, c'est là une vérité sur laquelle il n'est pas besoin de s'attarder, et chaque Noir américain, en conséquence, est menacé de paranoïa. » Et je trouve que c'est pas bon de dire menacé par Pyongyang parce que en anglais c'est envy American Negro therefore risk having the gates of Pyongyang closed on him. Ça montre vraiment que voilà, quand t'as des préjugés, c'est à toi que tu causes du tort. Et la suite dans ce développement, Baldwin dit là la phrase est bien traduite et ceci mène imperceptiblement mais inévitablement à un état d'esprit dans lequel, ayant appris depuis longtemps à s'attendre au pire, on en vient très facilement à croire au pire. C'est tout ce concept de prison mentale, en fait, où les gens tournent en boucle en se disant oh, « le monde est horrible, les hommes nous veulent du mal, il faut qu'on reste entre nous, entre femmes, entre lesbiennes, etc. » Et pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le clusterfuck, en fait, va souvent de pair avec la full mental jacket. Là, c'est un jeu de mots voilà, sur full metal jacket. On connaît le film de Stanley Kubrick qui est inspiré d'un livre sur la guerre du Vietnam. Et voilà, et le full mental jacket, c'est ça, c'est être enfermé dans un monde, en fait, dans ses certitudes, sans voir qu'on est en fait en train de se tirer une balle dans le pied.
Alors Peggy, je ne connaissais pas l'existence de ces cours d'œnologie, mais en tout cas, c'est assez inquiétant. Ouais. Je dirais, moi, ce qui me rend triste, surtout, c'est que j'ai l'impression qu'on a fait quand même beaucoup de progrès en termes de tolérance vis-à-vis des gens différents de nous depuis des décennies, mais que c'est comme si on n'avait fait aucun progrès et qu'il fallait toujours recréer des murs, des fractures, des séparations, des logiques tribales. Alors, est-ce que c'est parce que nous avons besoin du tribalisme pour nous affirmer ? Est-ce qu'aussi, peut-être, c'est parce que nous ne savons pas être libres ? La liberté, c'est difficile. Alors, une fois qu'on a l'égalité en droit et qu'on a la liberté, eh bien, il faut en user et ça devient beaucoup plus compliqué. Tout ceci, en tout cas pour moi, ne présage rien de bon. Sur ce, c'est le moment d'interrompre cette première partie et de passer à la seconde, où nous recevons aujourd'hui le producteur Philippe Levasseur qui vient nous parler de son documentaire « Chambre 2806 » sur les affaires DSK. Philippe Levasseur, bonjour.
Bonjour.
Et merci de rejoindre les Contrariantes aujourd'hui. Vous êtes producteur et depuis 2015 directeur général de l'agence CAPA, le premier producteur de documentaires en France. En plus de cette fonction, vous produisez vous-même un certain nombre de documentaires chaque année. Nous vous invitons aujourd'hui pour évoquer avec vous l'excellent documentaire que vous avez produit avec Sophie Paliès, Chambre 2806, l'affaire DSK, réalisé par Jalil Lespert. Une série que, je précise, vous avez montée pendant le confinement. Pour ceux de nos auditeurs qui ne l'auraient pas vue, Chambre 2806 est une mini-série en 4 épisodes diffusée sur Netflix, sortie en décembre dernier, qui narre l'affaire, ou plutôt les affaires, dont Dominique Strauss-Kahn, alias DSK, a été le principal protagoniste à partir de 2008, et qui ont révélé des penchants sexuels peu conformistes et même fort répréhensibles. Il y eut d'abord la révélation de sa liaison avec une employée du FMI, Piroshka Nagy. DSK, alors directeur général du FMI, aurait, semble-t-il, profité de sa position hiérarchique pour la séduire. Mais il y a surtout, et c'est à cet épisode que votre série consacre le plus de temps, le coup de tonnerre Nafissatou Diallo, cette femme de chambre du Sofitel à New York, immigrée, noire, modeste, qui, le 14 mai 2011, accuse l'un des hommes les plus puissants du monde d'agression sexuelle. On connaît la suite. DSK ne fut jamais condamnée au pénal et la plainte civile de Nafissatou Diallo s'est conclue par une transaction financière à son profit. Mais pour DSK, c'était le début de la fin puisque cet épisode fit avorter ses ambitions présidentielles en France. Et il y eut aussi l'affaire du Carlton en 2012, où DSK fut mise en examen pour proxénétisme aggravé en bande organisée et renvoyée en correctionnel pour proxénétisme aggravé en réunion. Il fut relaxé, mais votre documentaire montre que s'il n'était pas un proxénète, il a pu se montrer violent avec l'une des prostituées que vous interrogez, Mounia. Votre travail, votre documentaire, ne veut pas céder à l'émotion. Vous faites parler les protagonistes, sauf le plus important qui a décliné l'offre de participer, et vous les faites parler de façon clinique afin qu'ils retracent les faits, rien que les faits. Et le résultat est très réussi, puisque nous disposons, à la fin de cette série, de tous les éléments possibles sur ces affaires pour nous faire une opinion la plus éclairée qui soit. Et c'est aussi un documentaire qui en dit long sur une époque où les agissements de DSK passaient encore pour de la séduction, en tout cas auprès de ses proches. Nous qui aimons les sujets contrariants, nous sommes donc heureuses de vous recevoir aujourd'hui pour en savoir plus sur Chambre 2806. Je laisse donc Peggy introduire notre discussion par une première question.
Merci Laetitia. Alors effectivement, je vais commencer sur une question très extravagante. Comment et pourquoi avez-vous voulu faire ce documentaire ?
Bon, déjà, merci de me recevoir dans votre podcast. En 2011, quand l'affaire du Sofitel a éclaté, j'étais installé aux États-Unis où je travaillais déjà comme producteur. Et donc, j'ai suivi de près cette affaire, tout le tourbillon médiatique qu'il y a eu à l'époque. Et c'est vrai que depuis, j'avais envie de revenir dessus parce que il y avait beaucoup de zones d'ombre qui subsistaient. On savait pas véritablement ce qui s'était passé dans cette chambre. Et puis, il y avait des rumeurs de complot. Il y avait beaucoup de zones grises à explorer et des faits à rétablir. Alors, depuis 2011, j'ai regardé ce qui avait été fait et j'ai rassemblé des éléments. J'ai listé un certain nombre d'interlocuteurs qui n'avaient jamais parlé. Je m'étais dit que le moment venu, une fois que les langues se déliraient, qu'un certain nombre d'interlocuteurs, notamment du côté de la police américaine, retrouvaient un petit peu de liberté de parole, il serait vraiment intéressant de revenir cette affaire. Et puis en plus, il y a eu depuis le mouvement MeToo qui donne évidemment toute cette affaire et aux autres affaires dans lesquelles Dominique Strauss-Kahn a pu être impliqué, une dimension tout à fait nouvelle, et je me suis dit qu'il pouvait être intéressant de regarder dans le rétroviseur toutes ces affaires avec cet œil nouveau qu'on a sur les rapports hommes-femmes et notamment les rapports entre les hommes de pouvoir et les femmes. Donc quand les équipes de Netflix m'ont contacté en 2018, puis à nouveau en 2019, et m'ont demandé si à CAPA on pouvait avoir des idées de thématiques, de sujets qui pourraient correspondre à ce qu'ils cherchent pour leur plateforme, et notamment pour ces fameuses séries de true crime, c'est-à-dire de faits divers, mais qui sont beaucoup plus que des faits divers, hein, qui racontent aussi des phénomènes de société. Je veux dire, l'idée a été immédiate, c'est vrai que Dominique Strauss-Kahn correspondait exactement à tout cela, à la fois une affaire qui pouvait intéresser un public en France, mais aussi un public hors de France, puisqu'elle avait eu un retentissement international, et une affaire, des affaires dans lesquelles il restait encore beaucoup de choses à découvrir.
Alors, vous évoquez Netflix. Est-ce qu'on travaille différemment avec Netflix qu'avec une autre chaîne de télévision ? Et puis, y a-t-il des détails de votre collaboration qui vous ont semblé très atypiques, en fait, par rapport au reste de votre expérience de producteur ?
Oui, alors bon, y a beaucoup de points similaires aux autres productions, notamment la rigueur journalistique absolue dans laquelle on doit être quand on traite de ce type d'affaires. Mais je vais plutôt insister effectivement sur les différences qui sont plus intéressantes. Déjà, avec Netflix, on a une cible très très différente de nos diffuseurs habituels. C'est vrai, quand on produit un documentaire pour France Télévisions, pour Arte, on s'adresse à une audience française de façon prioritaire, même si ces documentaires peuvent être après distribués à l'international, alors que là, voilà, on s'adresse à un public mondial, donc évidemment on prend une audience avec une connaissance du sujet très variable, selon qu'on s'adresse en France à un public très averti, très informé des affaires politico-judiciaires, ou au Japon, en Australie, au Brésil, des utilisateurs de la plateforme Netflix qui n'ont jamais entendu le nom de Dominique Strauss-Kahn. Et puis même en France, en fait, en réalité, on est face à une audience qui, en termes de tranche d'âge, est très différente, beaucoup plus jeune que celle de notre public habituel sur les chaînes de télévision françaises. Et donc là aussi, quand on parle à des jeunes de 15-16 ans, le nom de Dominique Strauss-Kahn, ils en ont éventuellement vaguement entendu parler, ils ont peut-être le personnage des Guignols vaguement en tête, mais c'est à peu près tout. Donc ça oblige, dans la série, à poser aussi l'ampleur politique du personnage, parce que si on ne prend pas conscience de qui il était, de son importance sur le plan politique en France et à l'international, évidemment, l'histoire a beaucoup moins d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose d'assez fondamental quand on travaille pour Netflix.
Et depuis MeToo et l'année dernière, les affaires Maznev et cette année, l'affaire Duhamel, on parle beaucoup d'une sorte de droit d'inventaire de la libération sexuelle et des errements de la gauche qu'on appelle caviar. Comment est-ce que vous situez l'affaire DSK dans cette séquence ?
Bon, alors moi déjà, je pense qu'il n'y a aucun rapport avec la gauche caviar ou pas, que pour travailler, nous, à CAPA, sur ces... ce type d'affaires et sur les affaires de violence sexuelle en général, je veux dire, on sait bien que Marc Dutroux et fournirait, je veux dire, c'est pas la gauche caviar. Il y a une affaire au sein de la famille de Villiers. On ne peut pas parler vraiment de la gauche caviar. Donc je pense qu'il y a rien de, je pense pas que on puisse restreindre cette thématique à un bord politique ou à une classe sociale. Que malheureusement, ces problématiques de violence sexuelle, elles traversent toutes les couches de la société et tous les bords politiques. Et donc, ce qui est arrivé avec Dominique Strauss-Kahn aurait pu arriver aussi bien avec un homme politique de droite et avec quelqu'un qui n'avait pas sa fortune. Son statut social, en revanche, évidemment, l'a aidé dans sa défense, lui a permis de s'offrir les meilleurs avocats, des services de relations publiques. Donc ça, évidemment, ça a contribué à sa défense, mais je trace pas du tout une espèce de lignée politique ou sociale dans laquelle je pourrais inscrire Dominique Strauss-Kahn.
Alors pour en revenir au documentaire, il me semble qu'avec Chambre 2806, c'est la première fois que les policiers et les enquêteurs impliqués dès le tout début de l'affaire s'expriment publiquement et assez librement. Est-ce qu'il a été difficile d'obtenir leur témoignage ?
Finalement, c'était moins difficile d'obtenir leurs témoignages que ceux, par exemple, de politiques français. Les policiers américains, c'est aussi la vertu du temps que l'on a eu pour travailler et du fait que on arrive sur la plateforme Netflix 10 ans, presque 10 ans après l'affaire, on retrouvait une liberté de parole. D'abord parce que Michael Osgood, notamment, qui est le directeur d'enquête, qui s'est saisi dès le début de l'affaire et qui est un des plus grands spécialistes aux États-Unis des crimes sexuels, a quitté le service dans lequel il était à l'époque et a même pris sa retraite très récemment, donc il a retrouvé une certaine liberté de parole. Robert Mooney, qui est lui un peu le contre-enquêteur, qui à l'époque travaillait pour les services du procureur de New York, lui aussi ne travaille plus pour les services du procureur. Donc ce qui a été difficile, c'est d'identifier ceux parmi les interlocuteurs clés qui pouvaient retrouver cette liberté de parole. Et là, la chance aussi a joué en notre faveur, puisque, encore une fois, ces interlocuteurs, eux, depuis très peu, pouvaient parler, et ils avaient envie de parler, parce que l'un comme l'autre estime détenir la vérité sur cette histoire, une vérité contradictoire, et donc, quand on les approche et qu'on leur dit que ça va être diffusé sur Netflix, évidemment, il y a un caractère assez définitif dans ce qu'on leur propose, c'est-à-dire qu'après une série en 4 épisodes sur Netflix diffusée dans le monde entier, doublée dans une trentaine de langues, ils savent qu'a priori personne va se relancer de nouveau dans cette enquête, et donc s'ils n'expriment pas leur vérité sur cette affaire à ce moment-là, ils n'auront plus l'occasion de le faire. C'est aussi d'ailleurs ce qui a convaincu sûrement Nafissatou Diallo de nous parler aussi longuement. Elle aussi, elle avait une vérité, une colère à exprimer, elle s'est dit que c'était le moment ou jamais.
Et comment vous expliquez le refus de Dominique Strauss-Kahn d'apparaître dans ce documentaire ?
Bon, alors Dominique Strauss-Kahn, nous l'a sollicité, comme tous les autres interlocuteurs, très, très vite, et il est très vite apparu qu'il y avait peu de chances qu'il s'exprime, mais ça n'a pas été un gros problème pour nous. Moi, c'est vrai que très vite, quand je l'ai proposé cette série à Netflix, j'ai dit, voilà, on va faire une série sur DSK sans DSK. J'avais pris le parallèle de la série formidable qu'il y avait eu sur O.J. Simpson, où, pareil, il y avait beaucoup d'interlocuteurs dans son entourage, mais lui-même ne parlait pas. En fait, Dominique Strauss-Kahn, lui, s'est largement exprimé sur cette affaire. Il avait parlé sur TF1 longuement, il avait parlé sur CNN, on avait accès à ses interviews, et on savait, pour avoir été en contact au fil de nos recherches avec lui, avec son entourage, que sa version des faits et ce qu'il avait à dire ne changerait pas. Donc finalement, l'idée, c'était l'interviewer à nouveau pour qu'il répète ce qu'il avait déjà dit et ce qu'on avait déjà en archive, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt, donc on s'est concentré sur d'autres choses. Évidemment, s'il avait souhaité s'exprimer, ne serait-ce que dans un souci d'équité, on aurait recueilli sa parole, mais pour nous, voilà, c'était pas indispensable, et je pense que voilà, une des raisons pour lesquelles il a refusé, c'était qu'il n'avait rien de plus à dire que ce qu'il avait déjà dit. Cette information-là nous suffisait.
Mais justement, sur la version de DSK, ou alors peut-être que j'ai loupé des épisodes, mais moi j'ai l'impression qu'il ne s'est jamais vraiment expliqué sur ce qui s'est passé. Voilà, il a dit que ce n'était pas de la violence, que ce n'était pas un viol et que c'était consenti, mais rien de très précis.
Non, il n'a rien dit de... il a rien dit de très précis, et il a dit depuis qu'il ne dirait rien de plus. Et donc, il s'en tient à une version qui est assez vague, qui est que voilà, c'était un acte consenti. Alors effectivement, il n'a jamais été interrogé dans le détail, il n'a même pas été interrogé par la police, hein, c'est ce qu'on raconte et on explique pourquoi. Parce que, en fait, très vite, ses avocats sont intervenus et qu'aux États-Unis, en tout cas, à partir du moment où un avocat dit que son client ne répondra plus aux questions, eh bien, il n'a pas à répondre aux questions. Donc, sa version n'a même pas pu être confrontée à l'épreuve des faits, c'est-à-dire au prélèvement ADN qui avait pu être fait dans la chambre, au témoignage de la victime présumée. Voilà, il n'a juste jamais eu à répondre précisément des faits qui auraient pu lui être reprochés, puisque finalement l'accusation est tombée non pas parce que la version avancée par Nafissa Toudiallo ne tenait pas, mais parce que le bureau du procureur a estimé que Nafissa Toudiallo était une victime présumée trop fragile pour se retrouver face à des jurés interrogés par les avocats de Dominique Strauss-Kahn, qui sont les meilleurs avocats de New York, de Washington, de Paris, et qu'elle était trop fragile pour pouvoir faire face à une avalanche de questions et à une campagne de décrédibilisation telle qu'elle serait menée contre elle.
À mon sens, un contraste qu'il y a entre les séries de policières de fiction et ce que vous avez fait, donc il y a du true crime, un documentaire, j'ai l'impression qu'en fait, dans la fiction, on voit beaucoup des protagonistes qui ont, entre guillemets, une vision froide des violences sexuelles, donc voilà, les enquêteurs, les policiers, même les avocats et les magistrats. Alors que dans les documentaires, on les entend un peu. Et ce qui frappe dans votre documentaire, c'est qu'effectivement, les policiers et les enquêteurs sont très présents. Donc, à votre avis, pourquoi est-ce que ce sont généralement des protagonistes qu'on en entend très peu dans les affaires réelles de crimes sexuels ?
Alors, en fait, dans les affaires réelles de crimes sexuels, on entend souvent, les enquêteurs, mais on s'intéresse surtout, très souvent, prioritairement, aux bourreaux, entre guillemets. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous pourriez me citer une victime de Patrice Allègre, par exemple, ou une victime de Guy Georges, concernant Michel Fourniret, la petite Estelle Mouzin, et c'est tout. Donc en fait, les vrais héros, entre guillemets, hein, entre 10 guillemets, du true crime, habituellement, sont les bad guys ou les bad girls, quoi. Peut-être la vraie différence, déjà, dans cette série-là, c'est que les personnages principaux sont les accusatrices tout le long de la série. Et ça, c'est vrai que pour nous, c'était important, parce qu'effectivement, comme je le disais, Dominique Strauss-Kahn lui a pu s'exprimer assez longuement sur sa version des faits, alors que les femmes qui l'ont accusé, elles, ont eu beaucoup moins d'espace médiatique pour exprimer leur part de vérité. Donc il y avait déjà ça, cet équilibre-là, à rétablir. Ensuite, pourquoi dans une série de true crime documentaires, les policiers ont moins d'importance? Il y a aussi un souci, une exigence d'équilibre dans laquelle on est quand on est dans le documentaire. Et voilà, on est obligé de donner la parole à toutes les parties, alors que dans la fiction, on peut prendre un prisme très particulier et être effectivement que dans le point de vue de la police. On peut se détacher des contraintes d'équilibre, alors que nous, on est obligé de s'y tenir, et heureusement d'ailleurs.
Et quelles ont été les réactions à la série depuis qu'elle est sortie ?
Alors, ça dépend de qui, mais il y a eu, ce qui est assez intéressant, et il y a eu une très forte couverture presse. Et alors d'abord, effectivement, sur cet événement que pouvait constituer la présence sur Netflix de la série. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a eu un deuxième effet derrière qui est plus sur cette série comme une façon, effectivement, et ça, c'est vraiment ce que nous on souhaitait, qui était intéressant, une façon de regarder l'évolution du mouvement MeToo, de re-regarder toutes ces images avec un peu de sidération, en se disant, mais est-ce que ça serait possible aujourd'hui ? Est-ce qu'il se passerait la même chose ? Non seulement sur ce qui s'est passé en 2011, mais ce qui est arrivé avec aussi à Tristan Manon précédemment, où on revient dans la série sur son histoire et puis le fait qu'elle avait raconté dans une émission de Thierry Ardisson à l'époque ce qu'elle avait subi, et ça avait déclenché plus des rires autour de la table. Et donc quand on regarde tout ça avec le recul des années et tout ce qui s'est passé derrière et la libération de la parole des femmes, même s'il y a encore beaucoup de chemin à faire sur ce plan-là, on est assez sidéré, quoi. Donc tout ça, il y a eu un deuxième effet que moi je trouve vraiment intéressant, qui est au-delà de l'affaire, au-delà de qui a dit la vérité, est-ce que c'est lui, est-ce que c'est elle, et tout ce débat sur est-ce qu'il y a eu un complot, est-ce que Nicolas Sarkozy est derrière, etc. Sur finalement, il y a un côté un peu rafraîchissant de se dire non, sans doute les choses se passeraient différemment aujourd'hui, il y aurait une réaction beaucoup plus forte. J'espère, je pense qu'on peut croire en tout cas que même si à l'époque, oui, il y a eu des manifestations de soutien de femmes de ménage devant le tribunal, on s'en souvient, des manifestations de femmes, mais enfin, c'est pas devenu non plus un mouvement planétaire comme a pu l'être le mouvement MeToo. Je pense que voilà, une affaire pareille aujourd'hui serait jugée par l'opinion publique de façon différente. On a ressorti notamment les archives des micro-trottoirs du lendemain de l'arrestation de Dominique Strauss-Kahn, et c'est assez sidérant, la vague de soutien pour Dominique Strauss-Kahn, pas seulement de ses amis politiques, parce que je voyais dans les réactions qu'on a beaucoup dit que son clan l'avait soutenu, etc. Ben, pas seulement, je veux dire.
En France. Vous parlez d'un micro-trottoir
En France, vous, moi, enfin, je veux dire, les citoyens de base, les gens interviewés sur les marchés, étaient immédiatement dans la thèse du complot pour le déstabiliser, et il y avait très très peu de messages de compassion pour la victime. Donc c'est vraiment intéressant de regarder ça, alors que c'est il n'y a pas si longtemps, hein, on parle d'il y a 9 ans seulement. Donc ce type de réaction était assez intéressante.
Ce qu'on voit dans le documentaire, ce qui te frappe, c'est à quel point la justice est imparfaite, mais on voit aussi que les médias sont très imparfaits, parce que Nafissatou Diallo, il me semble, est au départ plus ou moins soutenu par le New York Post et d'autres tabloïds ou publications. Et puis, soudain, tout se retourne contre elle. Alors, comment vous interprétez, en fait, ce jeu et cette tension entre la justice et les médias ?
Bon, les médias, surtout dans des... Alors, on est dans une situation, et c'est intéressant d'ailleurs, parce que nous, à Kappa, là, on est en train notamment de faire... aussi tout un documentaire où on revient sur l'affaire Baudis, et on voit effectivement dans ce type de situation où il y a une course à l'audience, où il y a les journalistes de ce qu'on appelle journalistes de news, donc qui sont tenus de sortir des infos en continu. Hein. L'affaire Strauss-Kahn, c'est aussi le premier événement planétaire des chaînes d'infos continues. Ils font avec ce qu'ils peuvent comme source, comme info, ils prennent ce qu'ils ont, et ils se sont un peu, c'est le jeu de l'actualité immédiate, obligés d'alimenter le tuyau avec ce qu'ils trouvent comme info. Et donc, ce qu'ils trouvent comme info, c'est ce qu'on veut bien leur donner. Et donc, il y a évidemment une stratégie des partis en présence pour alimenter les médias en information et orienter leur couverture de l'information. Donc, au départ, les médias, ils sont alimentés par les services de police, par le porte-parole de la police. Donc, ils apprennent qu'il y a une arrestation. Donc, on est sur quelque chose de très factuel et terrible pour Dominique Strauss-Kahn. Il y a ce moment de la perp walk, donc ce moment où il est exhibé par la police, menottes au poignet. Donc là, les journalistes se jettent dessus. Les journalistes font feu de tout bois. Ils prennent ce qu'on veut bien leur donner, quoi. Et puis après, ils essaient d'en savoir plus. Et là, ce qui les alimente, c'est désormais la défense de Dominique Strauss-Kahn. Parce que la défense de Dominique Strauss-Kahn, elle sait gérer les médias. On a affaire à des avocats qui sont rompus à cet exercice. Ben Braffman, à New York, a été l'avocat de Michael Jackson, de Jay-Z. Et il sait que dans ces moments-là, gérer l'opinion publique, c'est fondamental dans la défense. Et donc, il alimente la presse avec des infos qui permettent de déstabiliser l'accusation. Et donc, les journalistes s'engouffrent dans cette brèche parce qu'ils n'ont pas vraiment d'autres choses à se mettre sous la dent. Et la défense de Nafissatou Diallo, pour le coup, met du temps à s'organiser. Au début, elle a un avocat commis d'office, puis elle change d'avocat, et ils sont à prix de vitesse, eux, dans cette campagne de déstabilisation, et on le montre dans le documentaire. Ils essaient, de façon désespérée, à un moment, ils organisent une conférence de presse dans laquelle Nafissatou Diallo parle, mais c'est presque trop tard. Ils ont été complètement pris de vitesse par la défense. Donc c'est intéressant de voir les stratégies qui s'opèrent dans ces moments-là, et de voir qu'évidemment, celui qui a les moyens de faire basculer l'opinion publique, surtout aux États-Unis, où in fine le procureur de New York est élu, donc il est extrêmement sensible à ce que pense l'opinion publique. Et donc au début, c'est en l'occurrence le procureur Cyrus Vance, qui est toujours un procureur à New York, il est démocrate, donc il se dit qu'il a arrêté un homme puissant, qu'il ne faut surtout pas, en tant que procureur démocrate, qui donne l'impression qu'il laisse un puissant s'échapper, donc il fait le maximum, hein, il l'envoie à Rikers Island, etc. Puis après, il voit qu'il se dresse en face de lui une défense surpuissante des chargés de relations publiques, une campagne de calomnie contre la principale accusatrice, et donc il prend peur. Et donc on voit que la stratégie de la défense de Dominique Strauss-Kahn a payé, parce qu'ils ont réussi à effrayer le procureur et à faire en sorte qu'il se dise qu'il n'allait pas tenir, en fait. Un an plus tard, quand il allait se retrouver face à des jurés, il risquait de perdre, il risquait trop lourd, parce qu'évidemment, ça coûte de l'argent, un procès, et ça surexpose le procureur. Le risque pour lui de perdre devant des jurés, il a estimé qu'il était trop fort. Donc il a préféré se retirer et ne pas aller au combat, d'une certaine manière.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur l'évolution, comment est-ce qu'on peut regarder le documentaire a posteriori, après MeToo, etc. Moi, c'est vrai que j'ai fait partie peut-être des rares personnes qui, en 2011, n'ont pas, entre guillemets, soutenu DSK et qui ont trouvé très crédible le témoignage de Diallo. Et ce qui m'a beaucoup frappé entre cette époque et votre documentaire, j'avais regardé très longuement l'interview que Nafis Atou Diallo avait donnée en 2011, je crois que c'était sur ABC News.
Absolument.
Une interview qui avait été très douloureuse parce qu'elle était vraiment terrorisée. Elle m'avait apparu comme une espèce de bête traquée et sommée de s'expliquer avec des moyens limités, alors que voilà, elle aurait jamais voulu se retrouver dans cette situation. Et au contraire, dans Chambre 2806, je trouve qu'on est face à vraiment un formidable exemple de résilience, comme si elle avait en fait métabolisé sa terreur qui a laissé place à de la colère et à de la détermination. De ce que vous savez d'elle, comment est-ce que vous pensez qu'elle a réussi ce cheminement ?
Bon, c'est vrai qu'au moment où l'affaire surgit, voilà, c'est une immigrée africaine de Guinée, dans le Bronx, qui vit une vie complètement, anonyme, en retrait, discrète. Et donc, elle est absolument pas préparée à la tempête médiatique. Et donc, elle réagit comme elle peut. Elle est peu conseillée par ses avocats. Elle fait un peu ce qu'on lui dit. Mais tout ça, effectivement, donne une image très... elle est apeurée, quoi. Elle sait absolument pas ce qui lui arrive. Puis voilà, le temps a fait son œuvre, lui a permis de réfléchir à ce qui s'est passé. Elle a regardé aussi le mouvement MeToo émerger. Elle a beaucoup aussi passé de temps avec... parmi ces deux avocats de l'époque, il y en a un des deux qui est décédé depuis. Et elle s'est rapprochée de la sœur de cet avocat. Et ensemble, elles ont écrit un récit qu'elle a publié à compte d'auteur, qui est passé complètement inaperçu. Et donc, ça lui a permis aussi, l'écrit lui a permis de réfléchir à tout ça, à tout ce qui s'était passé, de prendre du recul par rapport à ça, et d'inscrire sa tragédie personnelle dans un mouvement plus large. Et elle le dit d'ailleurs, elle dit qu'elle parle aussi au nom d'autres femmes. Voilà, elle le dit de façon modeste, hein. Elle ne se voit pas non plus comme une égérie d'une cause féministe, mais enfin, elle a conscience que... Elle sait ce que c'est que Netflix maintenant, elle sait quand elle parle qu'elle s'adresse au monde entier. Et donc, oui, elle a été un peu épaulée, conseillée. Elle a aussi gardé une grande frustration, une grande colère. Et ça, elle n'avait pas pu l'exprimer à l'époque, puisque quand elle a été interrogée, il n'y avait pas eu encore l'annulation de la procédure. Donc, elle n'a jamais pu exprimer cette colère-là et le sentiment qu'elle avait été maltraitée par la justice. Donc, au fil des ans, elle a à la fois mûri cette colère, elle a pris conscience que son histoire pouvait avoir un côté emblématique. Et donc, nous, quand on est venu recueillir sa parole, oui, elle était mûre pour la porter. Après, ça a été évidemment une très longue interview. On a passé plus de 2 heures avec elle. Et c'est aussi un accouchement de la parole qui a été long. On l'a contactée dès le début de notre enquête et elle a accepté de parler. On était déjà au montage, donc et il s'est écoulé entre-temps plus d'un an. Donc elle a beaucoup mûri avant de nous dire oui. Elle a réfléchi à ce qu'elle voulait nous dire. Et comme c'est quelqu'un d'intelligent, elle le dit elle-même, qui n'est pas allée à l'école, mais qui est très intelligente, Eh bien, elle a été capable de restituer ce qu'elle voulait vraiment nous dire et ce qu'elle avait mûri.
Vous dites qu'elle a publié un récit à compte d'auteur, donc aucun éditeur n'a voulu la publier ?
Non, alors je ne sais pas dans le détail si elle a, en fait, elle l'a publié sur Amazon, elle l'a vendu sur, elle a essayé de le vendre sur Amazon directement, sans maison d'édition. Je ne sais pas si elle a cherché un éditeur et que ça a été refusé, ou si elle avait imaginé qu'elle allait pouvoir comme ça elle-même assurer sa propre la promotion de son propre livre. En tout cas, ça a été un échec.
Très bien. Ben en tout cas, merci beaucoup pour cette discussion passionnante. Avant de conclure et de nous séparer, je voulais simplement citer des propos qui sont attribués à Alfred Hitchcock, qui aurait dit « Dans les longs métrages, le réalisateur est Dieu. Dans les films documentaires, c'est Dieu le réalisateur. » Et Chambre 2806 ne déroge pas à la règle, tant ce que le documentaire raconte est poignant et humain.
Merci beaucoup pour vos commentaires, c'est très, très agréable et c'est un sujet qui mériterait évidemment qu'on continue à en parler longuement.
Philippe Levasseur, merci d'avoir rejoint Les Contrariantes et rendez-vous à nos éditeurs dans 2 semaines pour le prochain numéro.
Merci à vous.
C'était Les Contrariantes, le podcast des idées élevées en liberté, présenté par le magazine Le Point, à retrouver toutes les 2 semaines sur lepoint.fr, Apple Podcasts, Spotify, Deezer et Google Podcasts. Le Point.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to Quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.